6h45, vous écoutez France Culture et c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, et on parle de l'État islamique aujourd'hui, puisqu'il y a une semaine maintenant, le chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, refaisait surface dans un enregistrement audio, le premier depuis 11 mois. Bonjour Wassim Nasr.
Bonjour.
Et merci d'être au téléphone. Vous êtes journaliste à France 24, auteur d'État islamique, le fait accompli. Alors dans ce message de 55 minutes, le calife, loin de renoncer, appelle à ce qu'il appelle une nouvelle expansion du djihad. L'État islamique, on le sait, ne contrôle plus que 3% du territoire en Syrie, mais l'organisation continue son harcèlement, hein, des attentats, des enlèvements, des attaques coordonnées, voire offensives d'ampleur comme en Syrie ou Afghanistan la semaine dernière. Alors al-Baghdadi cite aussi le Canada et l'Europe. Ont donné donc cette organisation pour moribonde il y a un an, mais on voit bien qu'elle n'a pas disparu. C'est même la transition vers l'insurrection qui est en cours, dit un expert américain. Ces discours, vous me disiez en préparant l'émission, Wassim Nasr, ils sont au rythme de un par an hein, depuis le début de l'État islamique, mais c'est un signal fort quand même, hein, le jour de l'Aïd al-Adha, c'est-à-dire la fin du Hajj.
Il était obligé, en tout cas, de faire un discours parce que le moment était venu. Après, dans le contenu du discours, bien sûr, il appelle à resserrer les rangs, bien sûr, il appelle à tenir bon pour les djihadistes. Il mentionne, bien sûr, toutes les zones où l'État islamique est présent. Mais le mode de retour à l'insurrection, il était déjà articulé par le feu porte-parole, donc Adnani, qui avait rappelé à l'époque, dans un de ses derniers discours avant qu'il soit tué par drone, que la période du désert, l'État islamique a déjà connu, donc la période où il était chassé des villes, et que ce retour à l'insurrection est une évidence pour eux, hein, où, comme Baghdadi l'a répété aussi, les bons sont séparés des mauvais, etc. Et ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'État islamique, en tant que tel, en tant qu'organisation ou que groupe, la période califat dans l'histoire de l'État islamique qui démarre en 2006, est une petite parenthèse. Donc, califat, donc, assez territorial. Ce qu'ils savent faire le mieux, c'est la guérilla. Et moi-même, pour avoir discuté avec certains djihadistes irakiens qui avaient des responsabilités, ils m'ont dit, nous, quand on est en zone urbaine, on a une population à tenir, on a aimé à faire tourner, etc. Alors que pendant la guérilla, on se concentre sur ce qu'on sait faire et ce qui nous coûte le moins cher. Et là, l'aspect économique de la chose est aussi très important, parce que les ressources aussi de l'État islamique se sont amoindries depuis quelques années.
Et alors, encore une fois, sur la suite de la stratégie de l'État islamique, si on s'en tient au discours, il y a certains commentateurs qui ont noté la disparition de ce qu'on appelait les wilayas provinciales, hein, comme Kirkouk, Mossoul, Raqqa. Certains ont dit que c'était une perte de confiance de la direction de l'État islamique envers ses commandants des wilayas. D'autres, au contraire, ont dit qu'en citant nommément des pays comme zone de l'État islamique, c'était une vision mondiale, un peu comme Al-Qaïda. Qu'est-ce qui vous en semble ?
Non, moi je dirais ni l'un ni l'autre. Écoutez, les djihadistes sont des gens très pragmatiques, hein, malgré ce qu'on peut entendre par-ci ou par-là. Donc aujourd'hui, le territoire qu'ils contrôlent en Irak et en Syrie continue à appeler les wilayas une par une. C'était de l'ordre du ridicule parce que le contrôle territorial n'est plus. Et donc, quand on dit wilaya, ça veut dire qu'il y a un wali, il y a un responsable. Et donc, ce n'était plus intéressant d'avoir 5-6 walis en Syrie, 5-6 walis en Irak. Et donc, il fallait ramener les choses à une personne pour suivre la réalité du terrain. Hein. Ça, je pense que c'est le cas. C'est-à-dire ils sont revenus à la même configuration médiatique ou de communication qui prévalait avant 2014, je vais dire, en Irak et 2012 en Syrie. Parce que là, il faut suivre la réalité du terrain. Ils ne peuvent pas avoir un wali, on va dire, sur l'Asie du Sud-Est, qui est une zone Philippines, Indonésie, etc. Et puis avoir 3-5 walis pour l'Irak où ils n'ont pas d'emprise territoriale à part dans le désert d'Anbar.
Ouais, Philippines, où il y a d'ailleurs eu un certain nombre d'attaques fin juillet. Si on parle de la menace maintenant et de son ampleur, c'est difficile d'évaluer la porosité qui reste, disent certains, avec la Turquie ou la possibilité de retour justement en Asie du Sud-Est. Mais sur les chiffres même, c'est vrai qu'il y a des disparités tellement énormes. Quelques centaines, disait un général français au milieu du mois de juillet, quand finalement, là, les chiffres ONU ou autres observateurs avoisinent les 20 à 30 000 sur la zone Syrie-Irak. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ou en dire ?
Écoutez, moi, je pense que les chiffres américains et de l'ONU sont largement exagérés. Ça ne serait pas la première fois, parce que si on part du principe qu'on a 30 000 combattants aujourd'hui, ça veut dire que tout l'effort entrepris par la coalition depuis 4 ans n'a servi à rien. Parce que 30 000, c'était le max des effectifs au pic de puissance de l'État islamique. Hein. Donc je pense que les chiffres sont exagérés et que tous les chiffres sont à prendre avec des pincettes, même quand ils sont américains ou venant de l'ONU, parce que même les chiffres américains donnés, par exemple, sur le nombre de morts parmi les djihadistes depuis 2014, si on les additionne, on arrive à des chiffres assez farfelus. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Quelques centaines, c'est peut-être aussi minimisé. Quelques milliers, oui, mais 30 000, non. Et ça, on parle bien sûr de la Syrie et de l'Irak, où ils ont encore une puissance de recrutement. C'est-à-dire ils ont encore la capacité de renouveler leurs forces. Donne un exemple. Il y a eu une dernière attaque contre une base américaine dans le champ pétrolier d'Al-Omar.
Vers des résorts, oui.
Voilà, donc il y a eu une attaque des djihadistes de l'État islamique qui ont bénéficié d'un appui aux mortiers depuis les villages avoisinants. Donc des habitants des villages avoisinants. Et après, il y a eu les YPG kurdes qui ont ratissé la région pour arrêter des gens. Donc c'est juste pour vous dire que les causes objectives pour la montée en puissance des djihadistes de l'État islamique qui prévalaient en 2011, aujourd'hui elles sont multipliées à cause de la situation économique, militaire, désastreuse dans les villes détruites, des millions de gens dans les camps. Mais aujourd'hui, il y a une pression militaire telle qu'il ne peut pas revenir dans une configuration de contrôle territorial. Voilà, mais cela dit, si la pression militaire est occidentale, j'insiste, baisse, parce que c'est la puissance militaire occidentale qui arrive à cibler les chefs et les zones névralgiques, il n'y a aucune raison pour que l'État islamique ne revienne pas en force. Regardez un autre exemple parallèle, les talibans en Afghanistan. Ça fait 17 ans que la guerre est menée contre les talibans en Afghanistan. Aujourd'hui, ils sont actifs dans une bonne partie des provinces afghanes.
Oui, ces zones toujours explosives et notamment du sud syrien. Si on quitte ce territoire, il y a deux petits indices peut-être. Une première attaque revendiquée au Tadjikistan tout récemment, une autre en Tchétchénie. Là-dessus, est-ce qu'il faut y voir une étincelle ou alors des actes peut-être isolés, affiliés, en tout cas revendiqués par l'EI, ces attaques?
Pour le Tadjikistan, je pense que ça s'apparente plus aux attaques qu'on peut avoir en Occident, ne serait-ce que par le mode opératoire et la façon d'agir.
Il y a des touristes assassinés.
Voilà. Mais en ce qui concerne la Tchétchénie, c'est un terreau de djihad bien ancien. Et donc, il y a beaucoup de Tchétchènes dans les rangs de l'État islamique, dans les rangs d'Al-Qaïda, dans les rangs de l'Émirat d'Afghanistan. Et c'est une autre dynamique. Parce qu'il y a un combat contre les Russes, contre le gouvernement prôné par les Russes. Donc, c'est pas la même configuration que le Tadjikistan, qui est un terreau beaucoup plus fertile en Tchétchénie. Mais c'est dit aussi, il y a beaucoup de Tadjiks dans les rangs de l'État islamique, dans les rangs de l'État islamique sur zone. Donc, des fois en Afghanistan, et il y en a eu beaucoup en Irak et en Syrie. Et pour avoir rencontré des responsables Tadjiks à une réunion à Bishkek au Kyrgyzstan, je peux vous dire qu'ils sont très inquiets sur les dents, parce qu'ils ont peur qu'une certaine jeunesse chez eux soit attirée par les djihadistes, surtout qu'eux, ils ont déjà connu une guerre civile contre des forces islamistes, voire des fois djihadistes.
Oui, de ce point de vue-là, on peut toujours parler d'une capacité tactique de l'État islamique. Juste un point sur les éliminations ciblées. Il y en a un certain nombre qui se sont produites dernièrement de chefs de l'État islamique. Le cinquième leader en Afghanistan qui a été tué tout récemment par les Américains. La frappe française également contre un leader de l'État islamique au Grand Sahara. Une politique qui est un peu vaine, disent beaucoup d'observateurs. Est-ce que c'est votre avis ?
Je dirais pas vaine, parce que là, des effets directs à court terme, parce que ça perturbe les capacités opérationnelles, ça perturbe certaines grilles de relations qu'un chef ou un autre a pu tisser avec son entourage direct. Là, je pense au Sahel, par exemple. Mais à moyen long terme, ils sont très vite remplacés, les chefs, parce que dans un groupe djihadiste, la personne n'est pas si importante que ça. Il n'y a pas de personnification. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt pour prendre la relève, parce que c'est très pragmatique. Ils savent très bien que leur espérance de vie, elle n'est pas très longue, que leur parcours de vie est très hasardeux. Donc il faut que quelqu'un puisse prendre la relève très rapidement. Mais d'ici à dire que c'est complètement inutile, bien sûr que non, parce que les personnes restent importantes, ne serait-ce que en termes de relations humaines avec leurs subordonnés et avec leur entourage. Donc quand ils arrivent à éliminer quelqu'un qui a une certaine aura, une certaine emprise sur ses subordonnés, bien sûr, c'est un effet direct. Par exemple, un exemple, la mort de Omar le Tchétchène à Sherkat en Irak par drone a eu des effets directs sur le déroulé du début de la bataille de Mossoul.
Et dernière chose, alors, si on parle plus d'élimination, mais éventuellement de réédition, y en a eu de l'État islamique dans le nord de l'Afghanistan face aux talibans assez récemment. Et puis l'itinéraire d'un djihadiste intéressant aussi que vous aviez commenté, Sultan Ould Badi, qui était dans l'État islamique au Grand Sahara, qui est passé un peu par tous les groupes et tous les trafics et qui finalement s'est rendu à l'Algérie. Est-ce qu'il faut là y voir une possibilité, effectivement, d'affaiblissement, disons, de l'État islamique?
Écoutez, tout est possible. Après, Ould Badi, bon, on m'a dit qu'il a été arrêté. Ses anciens amis de d'Al-Qaïda qui m'ont dit ça, donc ses anciens amis et nouveaux adversaires, si je puis dire. On dit il a été arrêté, mais bon, c'est aussi bien de montrer que les gens peuvent se rendre, comme ça, ça peut susciter des vocations. Mais vous savez, ça reste de la matière humaine. Et par exemple, pour le Sahel, qui peut nous intéresser particulièrement, même quand une personne est dans l'État islamique ou une autre est chez Al-Qaïda, les relations humaines toujours priment. Et qu'on a vu, par exemple, que quand les légendes d'Abou Walid Sahraoui, donc qui est le chef de l'État islamique dans le Sahara, se sont un peu éloignés de leurs anciens amis d'Al-Qaïda sans même se confronter, et se sont trouvés très vite privés d'une base de soutien assez importante. Et un par un, ils commencent à tomber, eux, leur base, etc. C'est pour, juste pour vous dire à quel point c'est le maillage du terrain est important, et c'est ce qu'Al-Qaïda a mieux compris que l'État islamique, que ce soit au Yémen, que ce soit au Sahel. Après, pour l'Afghanistan, ça reste aussi encore une autre dynamique où les relations tribales prime. Donc on peut avoir une guerre idéologique en principe avec des milliers de morts en Syrie, en Irak, etc. Mais pour les groupes djihadistes, les relations humaines entre eux, ça reste... Moi par exemple, j'ai pu suivre des cas dans le sud de Damas ou dans les montagnes du Golan où État islamique et Al-Qaïda mangeaient ensemble, faisaient des opérations ensemble, alors qu'en même temps à Raqqa ou Deir ez-Zor, il y avait déjà des centaines de morts. Donc c'est aussi à prendre en considération. C'est beaucoup moins noir et blanc ou rigide qu'on peut penser.
Eh bien, le terrain et l'humain, c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup, Wassim Nasr.